Bonjour à tous et merci d'être fidèles au grand face-à-face en direct jusqu'à 13h comme tous les samedis avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant et comme chaque semaine, retour sur les temps forts des derniers jours avec le duel et puis le débat du samedi. Le journalisme en question. Être journaliste, est-ce seulement raconter le monde ou est-ce aussi une manière de l'influencer, de peser sur le cours des choses? Le journalisme est-il toujours un quatrième pouvoir? Est-il d'ailleurs un contre-pouvoir? Autant de questions que l'on se pose à la lecture du premier tome foisonnant des mémoires que publie l'un des grands noms du journalisme français, Jean-François Kahn. Il publie « Mémoires d'outre-vie » aux éditions de l'Observatoire. 650 pages d'un parcours exceptionnel, celui d'un homme né sous la Troisième République qui aura connu 10 présidents, vécu en France et à l'étranger la plupart des grands événements qui ont bouleversé le monde ces dernières décennies. La vie d'un créateur de presse aussi qui a croisé le président Nasser, Albert Camus, De Gaulle ou François Mitterrand. Rencontre avec Jean-François Kahn d'ici une vingtaine de minutes. Mais d'abord le duel.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. On va commencer directement par ce qui a marqué la semaine. C'était un moment fort, tendu. C'était mercredi à Paris.
On nous dit, monsieur le ministre, ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Je sais. Vous pouvez compter sur moi.
On part au boulot et on ne sait pas comment on va rentrer, dans quel état ou si on ne va pas finir à l'hôpital.
Tous les matins quand je me lève, tous les soirs quand je me couche, je pense à vous. J'ai été élu d'une ville populaire où on sait que c'est grâce aux policiers que ça tient. Donc n'ayez aucun doute sur le soutien que je vous porte.
Merci beaucoup.
Bon courage.
Merci.
Vous avez évidemment reconnu la voix du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, venu à la rencontre des forces de l'ordre qui manifestaient devant l'Assemblée nationale ce mercredi, avec un dialogue engagé par le ministre avec plusieurs fonctionnaires et plusieurs représentants de syndicats policiers. Cette phrase qui restera: tous les matins quand je me lève et tous les soirs quand je me couche, je pense à vous, a répondu le ministre à l'une des interpellations. C'est une première de mémoire de policier pour un ministre de l'Intérieur. Gilles, qu'est-ce que vous retenez de ce moment-là ?
Je crois qu'il faut distinguer la manifestation policière et la présence politique. Enfin, en tout cas, il faut réfléchir aux deux. Sur la manifestation policière qui a son origine dans un malaise dont on a parlé depuis de nombreux mois ici et plus récemment sur la mort de deux policiers dans l'exercice de leurs fonctions, j'ai eu un certain sentiment de malaise. C'était moins une manifestation qu'un meeting. Il y a eu des mots d'ordre qui étaient embarrassants. Il y avait un climat. Il y avait des images d'Éric Zemmour, de Philippe de Villiers, de Marine Le Pen paradant. Bon. Mais surtout.
Au côté de Jean Lassalle, d'Yves Jadot et de.
J'y reviendrai. C'est ce que j'étais, c'est la présence politique. Mais le plus grand malaise sur la manifestation elle-même, ça a été pour moi la réactivation de deux mythes. Le premier mythe a été réactivé par la police elle-même, qui est le mythe du laxisme judiciaire. Cette idée que le problème de la police, c'est la justice, c'est quelque chose auquel beaucoup de Français souscrivent, et souscrivent même majoritairement. Or, s'agissant des violences contre les policiers en particulier, mais les dépositaires de l'ordre public en général, on sait que c'est déjà une circonstance aggravante, que les peines sont le plus souvent beaucoup plus sévères, qu'il y a beaucoup moins de peines alternatives, qu'il y a beaucoup plus de comparutions immédiates, et même sur les crimes et délits en général, la France est un des pays en Europe dans lesquelles on emprisonne de plus en plus, quand c'est exactement le mouvement inverse dans les autres pays, dans lesquels il y a de plus qu'ailleurs de détention provisoire. Bref, c'est une idée qui est largement un mythe. Et le deuxième point, le deuxième malaise, le deuxième idée qui a été réactivée, c'est ce mythe du bon sens, qui a été réactivé par Gérald Darmanin lui-même dans son interview dans l'Express. Il était interrogé sur les statistiques de la délinquance. Et qu'a-t-il répondu ? J'aime beaucoup les enquêtes de victimation, mais je préfère le bon sens du boucher charcutier de Tourcoing. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on privilégie, que le ministre privilégie le ressenti de quelqu'un, nécessairement partiel, parfois partial, sur les travaux scientifiques qui sont réalisés à partir de données enregistrées par ses services eux-mêmes, par des enquêtes de victimation auprès des Français. En d'autres termes, des travaux qui sont pilotés par l'INSEE, qui sont pilotés par les services statistiques de son propre ministère.
Enquête de victimation d'un mot, qu'est-ce que ça veut dire ?
Enquête de victimation, ça veut dire que vous interrogez les Français pour savoir s'ils ont été victimes. C'est la différence entre une plainte qui a été déposée, qui a été enregistrée dans un commissariat, et des crimes, des délits que vous avez pu subir, mais qui n'ont pas donné lieu à une plainte. Et donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui permettent d'avoir les éléments les plus objectifs sur la réalité de la délinquance. Le problème, et c'est ça où je trouve que cette réactivation du mythe du bon sens est proprement consternante, c'est que le progressisme, auquel se réfère le président de la République, c'est la croyance dans les lumières, dans la raison, dans la science, dans la capacité à objectiver des données et à partager un constat. On peut après se diviser sur les solutions.
Natacha Polony.
Alors, sur la manifestation en elle-même et les mots d'ordre, en effet, on peut s'inquiéter du slogan autour de la justice, même si on peut aussi en comprendre les sous-bassements. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la façon dont la France met en prison, le retard pris qui implique des détentions provisoires très longues, et le fait que, à côté de ça, les alternatives à la prison, le fait que les premiers délits ou les premières infractions à la règle, puis ensuite à la loi, ne soient pas suffisamment traitées, tout ça crée en fait un climat qui est un climat où ce qui devrait être traité le plus vite, c'est-à-dire le début de la bascule vers la délinquance, ne l'est pas. Et pour autant, en effet, on emprisonne plus. Cela dit, la France avait un nombre de places de prison inférieur à d'autres pays comparables en Europe. On est en train d'en construire, mais la question est de savoir justement si on n'est pas dans une course contre quelque chose qui s'amplifie systématiquement. Donc, premier point, ce débat sur les rapports entre police et justice mériterait que des politiques s'en saisissent véritablement. Et ce qui est hallucinant, c'est de voir des politiques venir flatter, en fait, les policiers parce qu'ils ont compris que la population était derrière sa police, ce qui est tout à fait justifié, mais venir les flatter au lieu, tout simplement, de prendre en main ce problème. C'est ne serait-ce que de faire se rencontrer les syndicats de policiers, les syndicats de magistrats, organiser, c'est le mot est tellement galvaudé, mais un Grenelle, mais de la police et de la justice.
Ou que le ministre de l'Intérieur discute avec le ministre de la Justice, tout simplement, le ministre de la Justice qui, au moment même, était à l'intérieur de l'Assemblée nationale.
Et qui, lui, est en train de mettre en place une loi qui est une loi dont on ne peut pas dire qu'elle soit laxiste. Pas du tout. Donc, il y a des choses à faire, il y a des choses à améliorer, mais là, on est dans le slogan pur et l'instrumentalisation de ces policiers dont la colère est parfaitement légitime, mais qui recoupe des choses beaucoup plus vastes. Alors, deuxième point, juste un petit mot sur les enquêtes de victimation et sur la question de savoir s'il y a un ressenti. La phrase « je suis d'accord » de Darmanin est consternante dans la mesure où elle est d'une démagogie absolue. En revanche, il faut avoir conscience du fait qu'il y a actuellement en France une augmentation d'une violence qui est imperceptible et qu'à mon avis, certaines enquêtes de victimation n'arrivent pas à détecter parce que on parle de choses qui justement ne vont pas advenir, d'agressions qui n'adviendront pas parce que les gens les évitent. Mais cette façon dont ils les évitent, c'est-à-dire en détournant le regard, en ne s'insurgeant pas contre un comportement incivique contre lequel normalement ils auraient voulu s'insurger, construit chez eux un sentiment qui est un sentiment de colère, de frustration qu'il faut traiter. Donc c'est pour ça que je pense que la question de la mesure de la violence est extrêmement complexe. Pour autant, la façon dont Gérald Darmanin utilise ça est absolument lamentable. La façon dont la gauche se fracture l'est aussi. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un Jean-Luc Mélenchon qui se positionne en recours contre une supposée insurrection fasciste dont il me semble qu'elle n'est pas encore.
Il a qualifié la manifestation d'offensivement factieuse, oui.
Oui, voilà. Or, non, cette manifestation n'est pas factieuse. En revanche, on peut critiquer les politiques qui y sont allées sans se poser la question de la position qui était la leur et sans s'insurger contre les slogans simplistes qu'ils pouvaient entendre.
Gilles.
Ouais, je crois qu'il faut effectivement s'interroger sur cette présence politique des politiques. Alors, qui n'a pas nécessairement et seulement pour objet de flatter les policiers. Celle de Gérald Darmanin, évidemment, était étrange, hein, on l'a souligné, c'est la première fois qu'un ministre de l'Intérieur participait ou passait dans une manifestation. Celle de la gauche, ou en tout cas d'une partie importante de la gauche, puisqu'il y avait à la fois les candidats possibles du Parti communiste, Fabien Roussel, des écologistes Yannick Jadot, du Parti socialiste avec Anne Hidalgo, a déclenché des passions, on l'a entendu à l'instant même avec la déclaration dans le journal d'Audrey Pulvar. Ça a traversé et ça a même déchiré une fois de plus la gauche. Moi, ma conviction est que c'est un débat qui est honnêtement qui est un débat difficile, mais que la gauche ne peut pas considérer que la sécurité est un angle mort. C'est une priorité des Français, Natacha l'a évoqué. J'ajoute que depuis 10 ans, depuis 20 ans, la gauche a un bilan à faire valoir, à la fois dans ses politiques locales, dans ses politiques nationales. Elle a eu des grands ministres de Pierre Joxe, en passant par Jean-Pierre Chevènement jusqu'à Bernard Cazeneuve. Et donc, elle ne peut pas abandonner ce terrain-là. Et la manifestation avait en réalité une ambivalence. Elle était soutenue, lancée par un syndicat qui est très à droite, mais soutenue par d'autres syndicats comme la CFDT et la CGT. Il y avait des revendications dont on a parlé qui pouvaient être contestables ou des mots d'ordre, mais il y avait aussi un appel à la solidarité après ces meurtres-là. Et donc, moi, je pense que ceux qui ont été là ont eu raison d'y aller dès lors qu'ils y allaient pour faire valoir ce qu'était leur position, se saisir de ce moment-là pour dire ce qu'était leur position, y compris leurs exigences par rapport à la police.
Est-ce qu'on a raison de faire très rapidement le parallèle ou de rappeler le souvenir de ce qui se passait au moment du plus fort de la crise des Gilets jaunes, en l'occurrence lorsqu'on parlait de la police, il était davantage question des violences policières et qu'aujourd'hui, le regard des Français a complètement changé, voire s'est inversé sur les mêmes forces de l'ordre. Comparaison n'est pas raison ou est-ce que on peut laisser de côté ce souvenir-là, Gilles ?
Il y a les deux. Le regard des Français sur la police est un regard très majoritairement, on l'a évoqué à plusieurs fois ici, de confiance. Mmh. Alors ça c'était monté très haut après les attentats de 2015. C'était redescendu un peu au moment des Gilets jaunes. Et dans l'enquête que le CVPOF a publiée hier dans Le Monde, qui était une vague sur la confiance des Français, ça a remonté à des niveaux qui sont importants. De mémoire, c'est 73% des Français la semaine dernière qui exprimaient leur confiance dans la police.
C'est la raison pour laquelle je vous posais la question, Natacha, d'un mot ?
D'un mot, on a dit plusieurs fois ici, en tout cas pour ma part, je l'ai dit plusieurs fois, il y a eu une instrumentalisation de la police par le politique au moment des Gilets jaunes et qui a mis les policiers dans une situation intenable. Et en effet, il y a eu des violences policières, mais elles sont le résultat de cette absence de gestion politique du problème. Pour autant, les policiers sont une institution qui a la confiance de la majorité des Français, tout simplement parce qu'une majorité de Français a bien conscience qu'ils sont ceux qui préservent la sécurité, qui les protègent. La question de la protection des citoyens par l'État est absolument cruciale et nous sommes dans un moment de demande adressé à l'État qu'il joue son rôle de protection économique, sociale, mais aussi de protection physique. Et de ce point de vue-là, il est parfaitement normal qu'il y ait un soutien des policiers. Tout le problème est de savoir comment on fait en sorte que ces policiers ne soient pas ceux qui subissent justement les incuries politiques. Juste un point, oui. Par exemple sur la question des trafics, où l'on voit que c'est en train de gangréner totalement la France, c'est-à-dire d'amplifier la violence dans certains quartiers, et l'augmentation des trafics est sans doute extrêmement dommageable dans la mesure où on voit bien que ça implique une violence contre les policiers qui maintenant est sans limite. Je ne comprends pas pourquoi là non plus les politiques ne sont pas capables de proposer autre chose qu'un discours d'apparence qui consiste à dire on va augmenter le nombre de policiers alors qu'on sait très bien que budgétairement ça n'est pas la réponse ne sera pas suffisante. On va, ce sont des rodomontades, on va lutter, la drogue c'est de la merde, ça c'est le discours de Darmanin, sans jamais réfléchir de façon systémique.
Le duel continue.
France Inter, le grand face-à-face, Le duel.
Je pense que la question de la démographie est dans l'harmonie d'une société. Je ne crois pas du tout à ce que les Allemands ont fait, c'est-à-dire accepter d'un seul coup 1 million de personnes parce que le patronat allemand avait dit qu'il fallait 1 million de personnes pour des main-d'œuvre en plus qui ne trouvaient plus de main-d'œuvre. Ça, pour moi, si ça se produisait en France, je pense que ça ferait des dégâts considérables qui produiraient du déséquilibre et le déséquilibre produit de la dénatalité.
C'était François Bayrou, le haut commissaire au plan, qui était auditionné ce 20 mai par la délégation à la prospective du Sénat, et il est revenu évidemment sur sa vision pour redresser une démographie française en baisse dans les prochaines années, puisque les Français ne font plus assez de bébés. Deux solutions, faire des bébés d'un côté ou faire appel à l'apport migratoire, avec la préférence que vous venez d'entendre dans la bouche de François Bayrou. Qu'en pensez-vous, Natacha?
Alors, la position de François Bayrou dans son rapport est plus fine et plus vaste que cela. C'est-à-dire, premier point, il y a un constat qui est que la France vit une baisse démographique dont on peut craindre qu'elle soit d'ordre structurel plus que conjoncturel. Évidemment, le coronavirus l'a amplifié, mais pour autant, depuis plusieurs années, la baisse est plus que marquée.
Depuis 6 ou 7 ans.
Voilà. Or, c'est un sujet majeur dont visiblement tout le monde se détourne et se contrefout. La question est de savoir si cette baisse démographique est due à la suppression progressive de nombre d'avantages d'aide aux familles. Auquel cas, et sans doute qu'il y a une part de cela, notamment le quotient familial, par exemple, qui est une incitation aux classes moyennes supérieures à faire des enfants, même si, bon, le lien est très difficile à établir, mais de fait, ça se met à baisser à partir du moment où ces politiques familiales baissent. Or, la réussite du modèle français, c'est cette politique familiale plus la possibilité pour les femmes de travailler et faire des enfants, c'est-à-dire tout un système de crèches, de garde d'enfants, donc les aides à domicile, etc. Tout ça a été raboté au prétexte que ça bénéficiait aux riches, ce qui est sans doute une erreur de perspective majeure.
Ce qu'indiquait François Bayrou.
Voilà, mais le problème est que ça se conjugue sans doute avec quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire qu'on fait des enfants quand on croit en l'avenir. Et jusqu'à présent, la France était un pays qui faisait des enfants. Le fait qu'il y ait aujourd'hui cette baisse de natalité démontre sans doute une souffrance sociale qu'il faudrait examiner plus largement. Quant à la réponse par l'immigration, François Bayrou le dit, et il a raison, si ça consiste à dire on remplace tout simplement, c'est-à-dire que on manque de bras, donc on fait venir des bras, c'est la réponse la plus faible qui soit. Sans pour autant dire que Angela Merkel a eu forcément tort d'accueillir des migrants en 2015. Le problème n'était pas exactement le même. Mais croire que les hommes sont des pions et qu'on va faire venir les forces vives de pays pauvres pour combler notre déficit est une folie et une absurdité. En revanche, réfléchir à l'apport d'une part d'immigration, est-ce qu'il faut une immigration choisie du point de vue des besoins économiques, mais de façon mesurée pour ne pas piller les ressources des pays en développement, là aussi ça nécessite un débat apaisé, un débat national.
Mais c'est un débat qui a cours, et notamment en régie, ici en studio, Natacha, avec vous Gilles qui allez y participer tout de suite. Faire des bébés ?
Les questions démographiques, comme les questions climatiques, sont les questions les plus structurantes, et je crois que c'est intéressant de lire ce rapport de François Bayrou, haut commissaire au plan. Il y a des choses qui sont intéressantes dedans, vous l'avez évoqué, notamment le fait que peut-être plus qu'ailleurs, la structure de la population, c'est-à-dire l'équilibre entre les différentes générations, est plus important compte tenu de ce qu'est notre modèle social. Il y a des choses qui sont politiquement significatives, qui ont été peu relevées dans ce rapport, notamment le fait qu'il contrebat l'idée que la subversion migratoire est là. Il montre qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Même que le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties, est faible. Il dit que c'est 87 000 personnes en 2020, et que pour l'essentiel, l'accroissement de la population que l'on continue de connaître provient de la natalité et très marginalement de l'immigration. Mais pour le reste, vous disiez tout à l'heure, il y a des propositions. En fait, je trouve que ce rapport est extrêmement décevant de ce point de vue-là. Un rapport du Haut Commissariat au plan, traditionnellement, c'était après une immense concertation de la société civile et des experts, et des propositions pour formuler au gouvernement qui les prenait ou qui ne les prenait pas. Là, je ne sais pas s'il y a eu de la concertation, mais il n'y a aucune proposition dans ce rapport. Et là où il y a, non pas une proposition, mais des suggestions, des orientations implicites, je trouve qu'elles sont discutables. Je rebondis sur ce que disait Natacha Polony pour m'en distinguer. François Bayrou dit il y a une baisse de l'indice de fécondité à partir de 2012, c'est-à-dire le nombre de femmes par enfant. Il y a, en 2012 aussi, une baisse des allocations familiales et du quotient familial pour les familles les plus modestes. Il y a une corrélation et même une causalité entre l'un et l'autre, c'est ce que reprenait Natacha. Il n'y a dans ce rapport pas le moindre début de commencement, de démonstration qu'il y a un lien entre les deux. Or, on peut...
C'est la question que j'allais vous poser.
Mais on peut tout à fait en douter, et même en douter fortement. C'est une toute petite partie des familles qui ont été touchées, et qui ont été touchées de manière extrêmement limitée. C'est, en gros, les familles qui touchent 8000 euros par mois, donc c'est une petite partie de la population, et qui perdaient un peu moins de 100 euros par mois au deuxième enfant. Est-ce que c'est pour ça qu'on ne fait pas d'enfants ? Franchement, il y a d'autres causes qui me paraissent beaucoup plus fondamentales, des causes matérielles. Le coût du logement, c'est beaucoup plus important. Les conditions d'accueil de la petite enfance, c'est beaucoup plus important. Et ce par quoi a terminé, à raison, Natacha, c'est cette dimension psychologique, la capacité à se projeter dans l'avenir. Et je termine par là. Je crois que ce qu'il va falloir observer de près dans l'avenir, c'est est-ce que le discours des jeunes générations que l'on a tous entendu, qui ne veulent pas faire d'enfants en raison de l'état de la planète, ce que l'on appelle, j'ai découvert dans ce rapport, cet acronyme, les GINKS, Green Inclination No Kids, est-ce que ce discours va être demain une pratique ?
Le duel continue.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Gilles, vous vouliez revenir aujourd'hui sur la réforme de la fonction publique et Natacha également, vous étiez passionné par l'idée que le corps préfectoral puisse voir sa fin approcher et que cette réforme de la haute fonction publique qui vise notamment à introduire plus de mobilité au sein des grands corps de l'État puisse permettre une réorganisation des structures, cette colonne vertébrale de l'État français, Natacha ?
Alors, je pense que c'est un sujet justement complexe où il faut se garder de positions extrêmement tranchées et qu'il faut regarder très finement les choses parce que cette suppression, cette fusion du corps préfectoral, peut avoir des effets pervers, mais l'instrumentalisation politique qui en a été faite nous raconte aussi beaucoup. Puisqu'en effet, cette décision intervient dans le cadre de la réforme de l'ENA promise par Emmanuel Macron au nom de l'idée que la haute fonction publique est trop uniforme et qu'elle induirait une vision du monde totalement fermée, totalement orientée et empêcherait donc la véritable action politique. Ce n'est pas faux. Pour autant, est-ce que la réforme d'Emmanuel Macron va permettre le moindre changement, notamment le fait que cette haute fonction publique pourrait être plus diversifiée ? C'est le premier point. Mais surtout, parmi les décisions, donc, autant certains corps sont maintenus, hein, le Conseil d'État par exemple, autant le corps préfectoral, lui, donc, serait dilué, dissous. Et le risque, c'est d'abord le fait de perdre l'expertise que peuvent avoir les préfets, leur capacité à gérer. Or, la crise du coronavirus a montré à quel point il était absolument nécessaire d'avoir sur le territoire des gens qui connaissent l'ensemble des structures de l'État. Mais surtout, un autre risque qui est mis en avant, c'est celui des nominations politiques. Or, ces arguments-là, qui sont ceux des préfets, ont été récupérés par Marine Le Pen, qui leur a adressé une lettre pour leur dire « je suis entièrement de votre côté », etc. Et ce qu'on est en train d'observer, c'est que ceux qui sont, disons, des piliers de l'État et de sa perpétuation dans sa capacité à agir, sont en colère, et que, subrepticement, Marine Le Pen est en train de se positionner comme celle qui préserverait l'État. Elle, qui était perçue jusqu'à présent comme un danger, justement, pour l'État. Il y a là quelque chose dont il faut se méfier profondément, au-delà des débats qu'on peut avoir sur les risques, notamment d'augmentation du pantouflage entre public et privé, de la perte de l'idée même de service de l'État, tout cela qui sont des sujets de fond.
Gilles Finkelstein.
Je vais essayer d'être concis.
Avant d'accueillir notre invité.
Puisque Jean-François Kahn est là, et malgré tout d'essayer d'être clair sur une question qui est une question technique. J'ai senti une pointe d'ironie chez vous, Ali, en disant qu'on se passionnait pour cette question.
C'était pas une pointe.
Alors, ça peut paraître un sujet secondaire ou limité. Hein, ça concerne en fait, pour essayer d'expliquer, le recrutement, la formation et la gestion de la carrière des 10 000 principaux cadres supérieurs de la fonction publique. Je pense que c'est en réalité un sujet stratégique pour la réforme de l'État, stratégique aussi pour Emmanuel Macron, qui a là un moyen de réactiver une identité réformatrice qui a été émoussée. Globalement, cette réforme me paraît aller, elle a été critiquée, elle me paraît aller dans la bonne direction. Je crois qu'on peut souscrire aux objectifs et aux orientations, ce que vous avez dit, c'est-à-dire plus de mobilité, mais aussi plus de diversité dans le recrutement, plus de proximité, c'est-à-dire commencer sa carrière en étant sur le terrain, plus d'équité avec une harmonisation des rémunérations. Il y a évidemment des prudences à avoir, il y a beaucoup de questions qui sont posées, je ne les énumère pas, qui sont renforcées par les contraintes de calendrier. Ça serait plutôt une réforme de début de quinquennat. On est à la fin du quinquennat et donc il y a un enchevêtrement des annonces et de la concertation. Et il y a un doute évidemment sur la continuité, la mise en œuvre de cette réforme. Sur la suppression du corps préfectoral, et je termine par là. Les préfets ne disparaissent pas. Les préfets seront toujours là, les sous-préfets, les préfets de département, les préfets de région, avec les mêmes fonctions et les mêmes suggestions. Ce qui disparaît, c'est le corps des préfets, c'est-à-dire la gestion de leur carrière. Je pense que la question de leur impartialité est un faux problème, celui qui a été soulevé par Marine Le Pen, parce que, par définition, ce sont des emplois qui sont à discrétion du gouvernement. Il peut les changer du jour au lendemain. Donc,
depuis
de ce
Napoléon.
Point de vue-là, ça ne change rien. En revanche, ce à quoi il faut veiller, ce n'est pas la question de l'impartialité, c'est la question de l'efficacité, c'est-à-dire de leur compétence. C'est un vrai métier que d'être préfet. Et il y a une forme d'élément surprenant qu'on fragilise symboliquement les préfets, le corps préfectoral, au moment où on essaye de revaloriser pratiquement leur rôle sur le terrain.
Le duel s'arrête et place maintenant au débat dans le grand face-à-face. Il est midi et demi sur France Inter.
France Inter, le grand face-à-face. Le débat.
Le journalisme en question aujourd'hui, un journaliste est-il un témoin ou doit-il être un acteur de son époque? Comment raconter le monde sans vouloir influer sur le cours des choses? Ce sont quelques-unes seulement des nombreuses questions qu'on se pose en lisant les mémoires d'outre-vie. Une somme foisonnante, passionnante, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. 650 pages où l'un des grands noms du journalisme français se retourne sur sa vie, sur une partie de sa vie seulement, soyons justes. Sur un parcours où l'on croise Che Guevara, Albert Camus, François Mitterrand et tant d'événements qui sont entrés dans l'histoire. C'est le cas et on en parlera évidemment de la guerre d'Algérie. Bonjour Jean-François Kahn.
Bonjour.
Hâte de vous entendre débattre avec Gilles et Natacha. C'est un livre où on apprend énormément de choses et notamment sur votre parcours depuis vos origines jusqu'à nos jours et en l'occurrence vos origines en cette funeste année de 1938, l'année des accords de Munich. Mais qu'est-ce que c'est pour vous qu'être journaliste, Jean-François Kahn?
Ouais.
Non, mais c'est plus qu'un métier à vous lire. On a le sentiment que c'est parfois une vocation, peut-être même une mission.
Je le dis dans le livre, j'avais pas du tout la vocation, du tout. J'ai jamais voulu être journaliste. C'est tout à fait le hasard. Je crois avoir été. Il m'est arrivé d'être courageux, je crois, dans ma carrière. C'est à des gens qui me connaissent de le dire. Mais ce jour-là, je l'ai pas été. J'ai toujours reconnu que c'est un peu par lâcheté que je suis devenu journaliste. J'étais professeur d'histoire, j'avais des élèves qui avaient mon âge. C'est très dur, contrairement à ce qu'on dit, l'enseignement. Faut porter une classe, enfin, etc. Et j'ai eu une opportunité de rentrer dans un journal. J'ai sauté dessus. Je dis un peu par lâcheté aussi, c'était pas ma vocation.
Mais voilà. Définition du métier de journaliste, parce que quand on vous lit, il y a des moments où vous racontez, vous décrivez, vous faites état de vos doutes, et je pense par exemple au moment où vous avez couvert la guerre d'Algérie, où vous prenez conscience de ce que c'est que la torture, des exactions des militaires français. Vous êtes dans la description de faits, et il y a d'autres moments dans le livre où on se dit, tiens, on a l'impression qu'il aimerait influer sur le cours des choses. Il prend part à des combats idéologiques. Il partage, il participe à la guerre des idées. Il prend même position en politique.
Oui, parce que j'ai...
On peut faire les deux.
D'abord, j'ai été reporter, j'ai été éditorialiste, j'ai dirigé un grand journal culturel, qui était, j'ai créé des journaux, donc voilà. C'est,
plusieurs, dont Marianne.
Mais, dont Marianne. Les journalistes sont adeptes, sont les derniers adeptes de ce qu'on appelle le positivisme, le néo-positivisme. C'est-à-dire, il y a une formule latine, le philosophe Berkeley est à l'origine d'une formule latine qui dit « esse est percipi », c'est-à-dire « être, c'est être perçu ». Et donc, je le perçois, donc c'est, donc je sais, donc... Mais malheureusement, c'est pas exact. Je prends beaucoup d'exemples. J'étais, le hasard fait, que je me suis retrouvé en Jordanie au moment de Septembre Noir. J'étais dans l'hôtel. L'hôtel a été bouclé par des Palestiniens, des commandos palestiniens, et les journalistes n'ont pas pu sortir. Un quart d'heure avant, j'étais sorti, le hasard. Je me suis retrouvé au milieu de cette bataille, au milieu. Ah, je peux dire ce fond-là, moi je sais, attendez, me racontez pas de blagues, des mecs, hein. S'il y a quelqu'un qui sait, qui a vu, c'est bien moi. Très bien. C'est quoi être au milieu d'une bataille? Stendhal l'a très bien expliqué pour Waterloo. C'est-à-dire, vous avez des gens cachés derrière un mur, qui tirent sur des gens cachés derrière les murs, et vous, cachés derrière un mur, vous les voyez tirer derrière leur mur. Eh bien, je n'avais rien compris. Je peux décrire les balles, les machins, les trucs, ça serait tout à fait intéressant, mais je ne comprenais rien. Et je ne savais pas qui avait gagné. Et quand je suis retourné à l'hôtel, les journalistes qui n'avaient rien vu, qui avaient écouté Radio Tel Aviv, Radio la BBC, Radio Le Caire et tout, c'est eux qui m'ont expliqué le sens de ce que j'avais vu. Ça aussi, c'est...
Alors, oui, mais vous n'êtes pas Fabrice à Waterloo. Vous n'êtes pas Fabrice à Waterloo, Jean-François de Cannes. Vous êtes beaucoup plus malin que ça. Et d'ailleurs, nous en parlions avec Gilles et Natacha juste avant votre entrée dans ce studio. On sent un malin plaisir à juger, porter des piques, parfois à certains moments, à d'autres juger, Gilles par exemple, de la manière dont un président de la République, en l'occurrence parmi tous ceux que vous avez connus dans votre carrière, Valéry Giscard d'Estaing, intervient dans l'élection législative de 1978. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est important, Gilles.
Je raconte. Ces mémoires vous ressemblent.
Ah bah, c'est la moindre des choses.
Ouais, c'est pas toujours le cas. Non, Ali Badou le disait, c'est un livre foisonnant. Vous ne le prendrez pas mal, mais c'est un livre qui est aussi un peu désordonné, c'est-à-dire c'est fait de briques et de brocs. Il y a des choses essentielles, des choses secondaires, des choses parfois superflues, mais c'est passionnant. C'est désopilant. Je dois dire qu'il y a des moments où je riais tout seul en lisant ce livre. Il y a des pages étincelantes, celles sur le bon choix de Giscard en 1978 ou sur la campagne présidentielle, les meetings de François Mitterrand. C'est formidable la manière dont vous décrivez ça. Bref, j'ai passé un bon moment. Je ne sais pas si vous avez passé un bon moment à écrire. Moi, j'ai passé un bon moment à le lire. J'aurais passé un meilleur moment si j'avais pu déguster et ne pas l'ingurgiter en aussi peu de temps. Mais j'ai trouvé ça formidable. Je reviens sur ce que disait Alice sur le journalisme. Vous dites très clairement que vous n'en avez jamais rêvé. Hein, vous dites « j'avais rêvé au fil des âges d'être capitaine de navire, commissaire de police, à la tête d'une entreprise exploitant la verticale du cochon ».
Oui, ça, ça a été mon obsession longtemps.
D'être journaliste,
pas trop tard.
D'être journaliste jamais. Vous dites même que vous n'avez jamais éprouvé de fierté à être journaliste. Vous soulignez très souvent le hasard qu'il y a eu à ce que vous avez fait et même au scoop que vous avez trouvé, peut-être même avec une modestie excessive. Moi, je voudrais vous interroger, non pas sur la fonction du journaliste, mais sur son exercice concret. À travers d'un exemple, vous avez été celui qui a révélé l'assassinat de Ben Barka. Comment ça se passe concrètement, ce genre de choses?
J'étais pour le journal Le Monde à Alger. Le voyage spécial permanent du Monde à Alger, parmi ce que j'ai couvert. Et Alger, à l'époque, c'était l'Algérie qui venait d'être indépendante, il y avait tous les révolutionnaires du monde entier. C'était absolument... D'abord, il y avait toutes les tendances trotskistes, je peux vous dire que déjà...
Ça en fait.
Il y avait absolument tout... Et les mouvements de libération nationale du Mozambique, de l'Angola... Enfin, il y avait tout le monde. Et je demande à celui qui les coordonne, qui est Ben Barka, je lui dis, écoute, organise-moi un déjeuner.
Il faut rappeler très rapidement, Mehdi Ben Barka, c'est une grande figure de l'opposition et de l'indépendance marocaine. Voilà. Il a été assassiné en France en 1965 devant la brasserie Lip à Saint-Germain-des-Prés. Et c'est effectivement un événement que vous racontez et où le général de Gaulle et les services ont eu un rôle
important.
Ouais. Déterminant.
Enfin, pas le général de Gaulle, il était remarquable, le général de Gaulle, dans cette affaire. Mais donc, c'était le chef de l'opposition dure marocaine, mais surtout, c'était le coordinateur de tous ces mouvements tiers-mondistes, révolutionnaires, etc. Donc, il me fait un déjeuner, on était 12, il y avait le... et c'est des gens qui vont devenir chef d'État. Celui qui était là du Mozambique va devenir chef d'État du Mozambique, celui de l'Angola va devenir chef d'État de l'Angola, etc. Enfin, plus ou moins leur parti, pas eux. Je veux dire, pourquoi pas eux? Et puis, voilà, je passe à l'Express. Quand je suis à l'Express, un jour, le téléscriptateur sonne, c'est à l'époque, ça t'attaque, un flash, Ben Barka enlevé. Et tout à coup, ça fait dans ma tête, j'ai dit, mais ce déjeuner, ils ont tous été tués, ils sont tous morts, sauf Ben Barka et moi. Ils ont tous été tués, assassinés, empoisonnés, fusillés, tous, absolument. Il y avait un chef d'exposition espagnol, tous, ou un Iranien, tous. Et j'ai dit, mais je veux savoir. Vraiment, je veux savoir. Et à ce moment-là, j'appelle un ami qui est un formidable reporter, qui est Jacques de Rogy, et ensemble, on se met en chasse pour savoir. Et on arrive à savoir, en effet, que c'est Oufkir, le ministre de l'Intérieur marocain, le chef de la police, qui sont venus. Enfin bref, on révèle exactement ce qui s'est passé, quels sont les responsables du crime, la complicité d'une partie de la police française. Voilà comment ça.
C'est un mélange de connaissances, d'intuition et de chance.
Oui, alors là où ça va dans votre sens, c'est qu'il y a une volonté, c'est pas simplement du journalisme froid, c'est mon métier de savoir, là, pour la raison que je vous ai racontée, il fallait que je sache, parce que on était les seuls vivants de ce déjeuner.
Natacha Polony.
Je pense que ce qu'il y a de passionnant dans ce livre, outre, en effet, le parcours extraordinaire, les flashs, les moments que vous racontez, c'est un moment de l'histoire du monde, de l'histoire de la France, mais vous racontez tout cela en mêlant en permanence le récit et l'interrogation que vous portez sur votre mémoire, sur vos choix, sur ce qui détermine une vie. Et je pense que c'est ça qui permet justement de se poser la question d'abord de ce qu'est le journalisme, mais aussi de ce qu'est l'évolution d'un pays. Votre description de la guerre d'Algérie, par exemple, est extraordinaire, parce que vous racontez évidemment les horreurs, les faits bruts, avec toute l'indignation qui était la vôtre à ce moment-là, mais surtout, vous racontez votre effarement devant les discours de gens qui avaient vécu 11 ans avant la libération de la France et qui étaient capables d'expliquer qu'il fallait écraser des Algériens, alors même que, pour certains, ils avaient pu se battre pour libérer la France. La question qu'on se pose en vous lisant, notamment ce passage, tous ces passages, ces longs passages sur la guerre d'Algérie, c'est la question de savoir comment on explique cet aveuglement, parce qu'il peut ressurgir à n'importe quel moment. Est-ce que c'est la frustration d'un pays qui ne se remet pas de l'humiliation de juin 40 et qui a besoin de retrouver une sorte de fierté? Est-ce que ce genre de travers peut ressurgir sous d'autres formes? Comment vous analysez cela?
Jean-François Kahn.
Il y a deux problèmes évoqués. L'un, c'est sur la mémoire. Pour revisiter sa mémoire. C'est très important, cet exercice. Par exemple, j'ai quelque chose qui m'avait obsédé et que je croyais avoir vécu. C'est en 43, là où j'habite, je suis dans l'ascenseur avec ma mère et notre voisine, qui s'appelle Madame Legros. En plus, elle était grosse, effectivement. Et elle avait des hoquets comme ça. Elle dit, mais qu'est-ce que vous avez, Madame Legros? Elle dit, ils ont fusillé mon fils ce matin. Et en effet, son fils, élève du lycée Buffon, avait distribué des tracts de la résistance, etc., et trucs, il avait été arrêté, fusillé par les Allemands, dénoncé par le proviseur, entre parenthèses. Eh bien, j'ai revisité, c'était pas possible, j'étais pas là. C'est-à-dire, je suis arrivé à Paris en 45. Donc, ma mère me l'avait tellement raconté, que j'avais fini par considérer que j'étais là. Et je pourrais prendre un autre exemple. J'ai interviewé le prince Youssoupov. C'est celui qui a assassiné Raspoutine. Donc c'était dans le noir, il avait des lunettes noires, c'était impressionnant. Hein. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de l'assassinat de Raspoutine, mais il voulait pas mourir. C'est comme le canard dans le sketch de Robert Lamoureux. Il voulait pas mourir. On le poignarde, le poison, le truc, on l'étrange. Enfin bref. Mais finalement, il ne racontait pas ce qu'il avait vécu. Il racontait ce qu'il avait raconté. Et la première fois, déjà, il racontait ce qu'il avait raconté. Et ce n'était plus de la mémoire. C'était un récit qu'il s'était intégré. Maintenant, on sait que c'est pas lui qui a tué Rasputin. C'était un grand seigneur, et il fallait pas qu'on sache qu'un grand seigneur ait tué Rasputin. Et voilà, c'est donc faut sans arrêt revisiter la mémoire. Pour ce qui est de ce que dit Natacha, c'est très juste, je veux dire, vous imaginez pas, vous avez 18 ans, comme dit l'autre, je venais d'avoir 18 ans, et malheureusement, j'ai jamais connu Dalida. Et on m'a formé. Mon père était un résistant. Enfin, j'ai aussi une grand-mère collaboratrice, mais enfin, j'ai un père résistant. J'ai eu les deux.
Oui.
Et donc, j'avais la tête totalement malaxée par la résistance, les tortures, la baignoire, l'électricité et tout. Et tout à coup, on me parlait de ça. Mais ce qui m'a, j'ajoute un élément parce que voilà, c'est d'actualité. Parce que quand j'ai écrit ces mémoires, je n'avais pas pris conscience. Ce dont je prends conscience aujourd'hui, c'est à quel point ça revisite l'actualité aussi.
Oui, c'est ça.
Ce qui illustre d'ailleurs ce que dit Natacha, c'est-à-dire qu'on n'a rien compris puisqu'on continue. J'ai quand même couvert 10 coups d'État militaires, 10 coups d'État militaires, plus 2 en France. Et ce qui justifiait ces coups d'État militaires, la rhétorique qui justifiait ces coups d'État militaires, mais je l'ai trouvé mot pour mot dans la tribune des militaires il y a 4 semaines. Il y a absolument 4 semaines. Et j'ai vécu l'histoire de, j'avais encore une fois 18 ans, ça m'a marqué à un point incroyable. Comment, en France, on a fait une intervention en Égypte parce que le chef de l'Égypte, le général Nasser, avait nationalisé le canal de Suez. On a quand même fait ça. Ça a été une catastrophe totale. Cette intervention militaire, on l'avait gagnée militairement. Mais évidemment, les Américains, les Russes nous ont forcés à arrêter et à nous en aller. Donc ça a été un désastre, en vérité. C'est-à-dire que le nationalisme arabe, le nasserisme, a déferlé sur le monde arabe. Mais on vient de le vivre il y a 3 jours. L'intervention à Gaza, bien sûr que les Israéliens ont gagné, totalement gagné. N'empêche que le Hamas dit qu'il a gagné, et dans la mesure où il a tenu, c'est d'une certaine manière, dans son sens, c'est vrai, et l'ensemble du monde arabe, aujourd'hui, est convaincu qu'il a gagné. Et ça va être catastrophique. Cette idée qu'ils vont arriver à faire passer que c'est eux les grands triomphateurs, au détriment de tous les modérés arabes, etc., est une catastrophe. Et donc, c'est exactement ce que j'ai vécu au moment de l'affaire de Suez.
Oui, comment une victoire peut se transformer en débâcle à mesure que le temps passe et de la manière dont on la raconte, Gilles.
Oui, vous avez dans ce livre, d'ailleurs, vous commencez par là, un rapport qui est très lucide à ce qu'est votre mémoire, à ce qu'est notre mémoire à chacun par rapport à la réalité des événements, y compris par rapport à la réalité des événements.
Avec une phrase que je trouve géniale, mon premier souvenir, je ne m'en souviens pas.
Vous l'avez évoqué, c'est à la fois une épopée dans l'histoire du monde, dans l'histoire de ce XXe siècle, mais aussi, c'est là-dessus que je voudrais vous interroger, sur l'histoire de la France de la deuxième moitié du XXe siècle, et notamment de la Ve République. Et en écho à ce que vous venez de dire, revenir à 1958, vous vous opposez au retour du général de Gaulle à ce qui est considéré, et vous dites qu'on a raison de le considérer comme ça, comme un putsch. Sans avoir d'hostilité, d'ailleurs, au général de Gaulle particulièrement. Et vous dites, je suis une chose qui me turlupine, je prends vos mots, la réalisation que 15 années après la victoire des démocraties, un putsch initié par l'extrême droite restait possible. C'est quoi la fragilité de nos démocraties? Est-ce que vous considérez que nos démocraties sont fragiles ou au contraire qu'il y a un soubassement qui est solide?
Jean-François Canin.
D'abord, pour bien comprendre, il faut savoir, c'est le 58, c'est le putsch de 58 qui permet le retour du général de Gaulle. Quand on dit aujourd'hui c'était un putsch d'extrême droite, on vous dit comment le retour du général de Gaulle, c'est un putsch d'extrême droite, mais moi je trouve formidable le retour du général de Gaulle. Mais d'abord, j'ai connu les gens qui ont provoqué ce putsch, je les ai rencontrés, c'était d'authentiques fascistes. Alors je peux vous dire à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais la preuve que c'était bien un putsch des extrêmes droites, c'est que le général de Gaulle a dû les écraser. C'est qu'ils ont fait un deuxième putsch pour chasser le général de Gaulle, et le général de Gaulle a dû les écraser, les envoyer en prison, en faire fusiller. C'est bien la preuve, en effet. Alors, heureusement, c'est le général de Gaulle qui a confisqué ce putsch Heureusement, mais c'était en effet un putsch d'extrême droite. Faut pas se raconter de, blagues.
Vous le décrivez d'ailleurs. Le 13 mai, c'était le 13 mai 58 où des civils d'extrême droite avaient à Alger entraîné des chefs militaires dans un coup de force. C'est comme ça que l'histoire commence avant qu'elle ne soit ensuite transformée.
J'ai ajouté ça. J'ajoute une chose. C'est que j'ai participé à une manifestation contre le putsch. Enfin, et donc, d'une certaine manière, contre le retour de Gaulle, dans ces conditions, pas contre De Gaulle. Et c'était toute la gauche, les socialistes en tête, qui avaient appelé à ces manifestations. Et pendant qu'ils appelaient à cette manifestation, ils négociaient leur ralliement au général De Gaulle, etc. Parce que,
et parmi les manifestants,
vous rendez compte
que
tout ce qu'on dit, l'intervention à Suez, la guerre d'Algérie, les horreurs de la guerre d'Algérie, c'est un gouvernement socialiste. C'est un gouvernement socialiste, des ministres socialistes. Vous imaginez, quand on a 18 ans, l'importance que ça a dans votre conscience politique, le fait que ce que vous avez vécu de pire, c'était des socialistes qui étaient au pouvoir.
Le nom de Ramadier sort largement écorné de votre livre, Natacha Polony.
Il y a également un passage dans le livre qui est un chapitre qui est intitulé Dictature libérale et qui est assez intéressant puisque vous pointez en effet vous parlez du Chili de Pinochet et de la capacité à ce moment-là à justifier une dictature et à justifier un coup d'État au nom du fait que ça allait permettre tout simplement la dérégulation et que donc toutes les forces financières applaudissaient à la suppression des libertés du moment qu'était rétablie la liberté de s'enrichir, de faire du profit.
Mais au nom
ce qu'on
de
a
la liberté,
vu d'ailleurs
hein.
au Brésil, hein, ce qu'on a vu au Brésil avec Bolsonaro.
Mais au nom, Natacha, au nom de la liberté, quand on leur parlait, ils disaient il faut un putsch pour défendre les libertés.
Et vous soulignez qu'en face, vous aviez Cuba, où en effet là c'était le contraire, c'était la vieille rhétorique, on supprime les libertés formelles pour l'égalité formelle pour les libertés formelles pour rétablir la liberté réelle et l'égalité réelle, c'est-à-dire cette capacité à s'aveugler, et vous expliquez que finalement la seule chose sur laquelle s'accordaient ces gens qui acceptaient donc ce que vous appelez une dictature libérale, c'était la détestation de la démocratie. C'est peut-être la question centrale, c'est-à-dire la démocratie permet d'empêcher cette fracture entre libéralisme politique et libéralisme économique.
Oui, mais c'est surtout l'ambiguïté du mot liberté. Je raconte, au Chili, donc un petit peu avant le putsch de Pinochet, je vais à un concert de Juliette Gréco. Juliette Gréco, elle arrive au Chili, c'est Chili d'Allende, donc elle pense que tout le Chili est socialiste, ou elle a l'idée. Elle fait un concert. Et en vérité, c'était une salle de la bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie. Donc c'était une salle très anti-Allende, en vérité. Et elle leur dit, je vais vous chanter une chanson sur la liberté. Oh, bravo dans le sens contre, ça veut dire contre Allende, parce que les mesures économiques, pour eux, c'est une atteinte aux libertés.
Elle vient soutenir Salvador Allende, donc, elle chante pas un applaudissement à la fin.
Bah oui,
de
parce
son
que
spectacle.
Pourquoi? Parce qu'elle chante une chanson contre les colonels grecs. Et là, ils ont dit, il y a Maldon. Ils étaient pour les colonels grecs. Et il n'y a pas un applaudissement à la fin. Elle ne comprend pas. Elle dit, mais enfin, ils m'ont applaudi quand j'ai dit que j'allais chanter la liberté. Ça illustre tout à fait ce que dit Natacha. Eh oui, mais ce n'était pas cette liberté-là. Voilà.
Gilles.
On a parlé de 58. Là, on est au début des années 70. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière à 1968, dont vous dites que le mouvement fit rhétoriquement et idéologiquement du mal, mais pratiquement et concrètement du bien. Mais c'est sûr, votre divorce accentué avec l'extrême gauche qui date de ce moment-là et dont l'origine, et c'est là-dessus que je voudrais vous interroger, est l'utilisation abusive à vos yeux du mot « peuple ». Hein, vous dites « le mot peuple fut mis un temps à toutes les béchamels, étant bien entendu qu'il désignait une population abstraite qui ne pensait pas comme soi. Peuple, ce n'était pas une désignation, c'était une distinction. » Est-ce que ça vous diriez la même chose aujourd'hui appliquée à d'autres ?
Jean-François Kahn.
Oui, je pense d'abord, je pense que ça a été une erreur terrifiante par ses conséquences de qualifier de populisme tout ce qui était dérangeant, tout ce qui nous dérangeait. Reagan était populiste, mais Castro aussi. Enfin, vous voyez, c'est comment parce que y a le mot peuple. Comment peut-on choisir comme mot le plus péjoratif pour désigner ce qu'on considère comme le mal, un mot où il y a le mot peuple. Les gens, ils comprennent populaire. Et la preuve que c'est une folie, cette espèce d'utilisation obsessionnelle du mot populiste, c'est qu'ils s'en sont emparés et qu'ils se déclarent populistes. Ils ont compris qu'on leur faisait un cadeau. Donc ça, c'est, en effet. J'ajoute que c'est moins mai 68, c'est que j'ai raconté les putschs militaires que j'ai couverts, c'est que presque toujours, c'est des excès de l'extrême gauche qui ont servi de tremplin à l'extrême droite pour entreprendre des putschs militaires. Cette dialectique ultra-gauche putsch militaire, je peux vous dire que ça m'a obsédé à la fin. Sans arrêt, j'ai été confronté à ça.
Natacha.
Oui, on sent que cette dimension-là vous guide. Et il y en a une autre. Vous expliquez à un moment que vous découvrez que le stalinisme, c'est en fait un état récurrent de la gauche et de la droite, et que finalement, ce n'est que la perpétuation des guerres de religion, c'est-à-dire l'idée que dans le camp d'en face, ce sont des salauds, et qu'il faut donc les exterminer. Est-ce que on n'est pas justement en train de revivre totalement ce genre de dérive? C'est-à-dire que nous sommes dans une société où la capacité à faire entendre un discours qui ne soit pas celui qu'attendent les auditeurs de ce discours devient de plus en plus difficile à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'on est dans un renforcement des certitudes de chacun. Vous vous êtes battu toute votre vie contre ça, mais aujourd'hui, est-ce que on n'est pas face à un constat d'échec?
Oh ben moi, j'ai écrit un petit livre, tout petit livre, pour dire que j'ai échoué. Je reconnais que j'ai échoué. J'ai jamais dissimulé. Aujourd'hui, si on veut analyser la situation, ce que vous faites ici, à mon avis, c'est moins tributaire d'une analyse politique que d'une psychanalyse. Je crois que c'est à la psychanalyse qu'il faut retourner pour comprendre aujourd'hui le degré d'hystérisation qui répond à l'autre hystérisation. On l'a vu d'ailleurs à propos du Proche-Orient, on le voit à propos de tout. Et je crois, alors, ou bien le stalinisme, c'est une période historique. Et alors à ce moment-là, c'est Staline, ce fou, ce dingue, ce tyran, et on ne peut pas l'appliquer.
François Kahn, on a envie de vous dire, là, on est en pleine bataille des idées. Aujourd'hui, l'actualité, elle est dominée par un affrontement entre camps. Ça relève pas de la psychanalyse, mais de rapports de force.
Attendez, si je vous
dans le champ de la théorie, on parlait de Gramsci tout à l'heure.
Mais si je vous lisais, quand il y a eu la tribune des militaires sur les sites de journaux, le site d'un journal comme Le Figaro, il y est pour rien. Le Figaro n'y pour rien, il a un très bon site, etc., c'est pas le problème. Mais enfin, vous n'imaginez pas, j'avais pris une note, ce que les gens disaient, vous n'imaginez pas. C'était réellement de l'hystérisation qui mérite une psychanalyse. Dans ce que je disais pour le stalinisme, c'est que, ou bien c'est historique, ou bien ça peut s'appliquer à tout. C'est-à-dire l'islamisation, les islamistes les plus radicaux, c'est une stalinisation de la religion. Il y a un staliniste de droite, un staliniste de gauche, etc. Voilà, c'est ce que je... Alors, il y a des gens qui sont tout à fait en désaccord avec ça, mais j'ai en effet essayé d'analyser, de proposer cette explication.
Il reste très peu de temps.
Précisément, sur ce degré d'hystérisation, votre livre se termine en 83, donc...
Ah bah alors,
avant, il y a
une illustration.
Donc, avant 83, il y a 1981, ouais. Vous dites que vous n'appelez pas à voter Mitterrand au premier tour, que vous faites campagne à fond
vous savez pourquoi,
au deuxième tour.
À cause de la retraite à 60 ans.
Vous dites que les promesses ont été tenues sans doute comme jamais, même celles qui sont mauvaises, dont celle-là, mais c'est là que je voudrais revenir sur le degré d'hystérisation. C'est quoi l'intensité des émotions quand on est à la fois un acteur et un observateur du 10 mai 81?
Mais vous avez lu ce que je cite. Attendez, c'est incroyable. Vous n'avez pas trouvé ça incroyable?
J'étais trop jeune, en fait, pour
les textes que je cite.
Oui, mais... Oui,
qui datent de 60... C'est hallucinant. Ça dépend de... Franchement, c'est pas psychanalytique plus que politique, quand on en arrive à ce degré.
Donc ce n'est pas nouveau.
Ah non, c'est pas nouveau. D'ailleurs, le stalinisme n'est pas nouveau.
Natacha, juste d'un mot, et ce sera la fin, il reste une trentaine de secondes.
Bah, je pense, non, on ne peut pas conclure justement un tel parcours en une trentaine de secondes. Simplement, je pense qu'il faut dire à quel point ce livre devrait être lu, notamment dans les écoles de journalisme.
Ah bah merci. Et ben voilà, merci, vous dit Jean-François Kahn.
Pour quelqu'un qui ne voulait pas être journaliste, c'est formidable.
Oui, c'est plutôt pas mal. Et pour quelqu'un qui aimerait voir Viroflay et qui n'y est jamais allé alors qu'il suffirait de prendre le métro.
Mais j'y suis né.
Bah c'est ça, la raison pour laquelle vous n'y retournez pas. Merci en tout cas Jean-François Kahn d'avoir été l'invité du Grand Face à Face. Mémoire d'outre-vie, tome 1. Je me retourne sidéré et c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Natacha et Gilles, merci rendez-vous beaucoup samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Fabrice Desmazes et à suivre le journal.